Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Par les temps qui courent, rencontre des artistes tous les soirs pendant une heure. Ce soir, deux. Mylène Benoît et Magda Cachouge.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout pépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
France Culture. Par les temps qui courent. Avec Mylène Benoît et Magda Cachouche.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Sur le plateau sombre, un corps avance à l'envers. Le dos du crâne porte un masque de lion et quand l'interprète apparaît enfin, elle n'efface pas l'animalité d'abord aperçue. C'est Diotime qui rompt l'obscurité. Elle va raconter son histoire, aidée par d'autres voix, d'autres images, d'autres flammes en papier, les sons d'une source et celui des sabots de chevaux. Diotime, qui sous la plume d'Henri Beauchamp en 1991, avance contre la place qui lui est assignée et lui interdit de participer au rituel du combat avec les lions. Il lui est pourtant évident qu'elle est lion, qu'elle est née de lion et qu'il y a dans cette origine sauvage une ressource puissante pour devenir la femme qu'elle choisit d'être. D'abord opposée à sa sœur et à sa propre mère, c'est à cette eau-là, dans ce jardin chanté, qu'elle prendra appui pour s'élancer enfin vers son désir. Magda Cachouche, Mylène Benoît, vous proposez avec la dernière création de la compagnie Contour Progressif une relecture musicale et chorégraphique à destination des jeunes spectateurs de Diotime et les lions. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va citer tout de suite le nom de l'interprète dont je décrivais l'arrivée, Céline Cartillier, et des deux musiciens et musiciennes qu'on travaille avec vous, Nicolas Devos et Pénélope Michel. Alors très souvent, dans le travail du Contour Progressif, la compagnie, le plateau a une sorte de vie pour lui-même, en tout cas une importance. Ici, il est comme une sorte d'atelier à regard ouvert pour nous toutes et nous tous, à la vue des jeunes spectateurs, puisqu'on en discutera tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose que vous avez d'abord pensé pour le jeune public, comme on l'appelle. Il y a une manipulation d'objets, il y a la lumière. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit ?
Oui, je peux commencer par parler de cet atelier ouvert que nous avons pensé, Magda et moi, en s'appuyant en effet sur les pièces précédentes, avec cette idée que un espace pour un spectacle, c'était forcément un espace aussi pour un rituel. Et c'est aussi ça un peu dans l'éthique du travail de la compagnie depuis longtemps, que c'est un espace où, dans la mesure du possible, on partage les choses en train de se faire. Et le fait que Magda soit plasticienne et que là, pour cette pièce, on a décidé de se répartir ainsi les rôles, je sois particulièrement chorégraphe, a encore modifié ce rapport qu'on a déjà engagé, ce rapport à l'espace, à la lumière et aux médias qu'on a déjà engagé depuis pas mal d'années.
Et ce territoire aussi du plateau, c'est aussi un territoire qui s'étend sur une dimension temporelle, avant, pendant et après le spectacle. C'est une des questions qu'on s'est posées, comment être avec le spectateur pendant tous ces moments, si bien que le spectacle se déroule avec une première proposition, un premier échange avec les spectateurs avant de rentrer sur le territoire du plateau, qui pour nous aujourd'hui est comme une place publique, l'espace du village de Diotime, et comment le spectateur peut repartir ensuite avec un morceau du spectacle, avec un objet ou une chanson. Et donc ce sont toutes ces questions-là aussi qu'on s'est posées sur la question du territoire du spectacle.
Et ça aussi, ça relève d'une forme d'éthique du travail de la compagnie, puisque la manière dont on accueille les personnes qui vont regarder et qui vont être avec et qui vont pourquoi pas faire partie du rituel ou prendre part à ça est une manière presque déjà chorégraphiée par le travail. Est-ce que vous pouvez parler de l'accueil que vous réservez aux jeunes ou moins jeunes spectateurs dans Diotime et les lions ?
En fait, Magda et moi, à tour de rôle, incarnons la narratrice du spectacle. Il y a donc deux interprètes dans ce spectacle, Céline Cartier qui danse et qui chante, et puis cette narratrice qui porte le texte d'Henri Beauchaud et qui chante aussi et qui échange avec Céline. Et cette narratrice, tout au début de la pièce, accueille les spectateurs, donc qu'ils soient des individus enfants ou des individus adultes, qu'ils soient des jeunes femmes, des jeunes garçons, des vieilles femmes et des vieux hommes. Et en fait, on les accueille parce qu'on s'est dit voilà, qu'on souhaitait vraiment que la pièce commence bien avant, mais c'est que la pièce Diotime, elle commence bien avant nous. Elle commence dans la nuit des temps et elle commence dans un village, dans des temps très anciens. Donc peut-être qu'on avait cette intuition qu'il fallait comme ça que la tresse du spectacle puisse commencer depuis nos inconscients à chacun il y a très longtemps et que ça puisse se réveiller avant d'entrer au plateau. Ça, c'est une raison. Mais l'autre chose importante, c'est qu'on a, là, pour des raisons de production, fait une rencontre étonnante avec une programmatrice de spectacle qu'on appelle Jeune Public et qui nous avait dit, très inquiète, vous voulez mettre les enfants sur le plateau, puisque Diotime, comme le Magda le disait, Diotime et les lions, est un spectacle en trifrontal, donc les enfants sont et les spectateurs, tous âges confondus, sont sur le plateau. Et elle nous avait mis en garde en disant, aujourd'hui, plus personne ne respecte rien et les enfants ne respecteront jamais les règles que vous allez leur donner.
S'il y en a qui nous écoutent ce soir, je voudrais dire que je ne crois pas du tout à cette phrase.
Alors c'est un peu ce qu'on s'est dit, on est sortis interloqués et on s'est dit, bon, nous allons nous prouver à nous-mêmes que c'est tout l'inverse qu'il va se passer. Et c'est tout l'inverse qui arrive.
Et puisqu'on parlait d'individus de tous les âges, on va entendre tout de suite Henri Beauchaud lui-même, en 2009, parlant de Diotime.
Elle a en elle une part de sauvagerie qu'Antigone a aussi, mais qu'Antigone la voit, tandis que Diotime ne le voit pas. Et certainement que Diotime est inspiré en partie par la Sibylle, par d'autres images, mais inspiré en partie par ça. Et que Diotime et les lions racontent sa jeunesse, la grande crise par laquelle elle passe pour sortir du monde violent que celui de son grand-père qui l'entraînait là au combat avec les lions. Et on voit que Diotime va devenir une femme tout à fait différente, mais je ne raconte pas les épreuves par lesquelles elle est passée là. J'ai pensé le faire et puis finalement, je ne l'ai pas fait.
En 2009 donc, et au micro de Catherine Pontimbert dans les entretiens à voix nue diffusés sur France Culture, la voix d'Henri Beauchaud parlant de Diotime et qui dit « elle porte en elle une part de sauvagerie ». Et entre autres choses qu'il raconte, il dit qu'il aurait voulu dire, il pensait raconter plus de choses à son propos, mais que finalement il s'en est tenu à quelques petits moments de l'histoire de cette Diotime, simplement pour dire comment elle est sortie du monde violent de son grand-père pour devenir une femme différente. Comment est-ce que vous avez rencontré Beauchaud et ce texte sur Diotime?
Mylène. Alors, quand on a décidé avec Magda de créer une pièce pour la première fois, en effet, qui avait pour objectif de s'adresser au jeune public, on ne savait pas tellement ce que ça voulait dire. Et puis, pour ma part, je m'y étais toujours refusée jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est dit, voyons cet exercice, voyons cette nouvelle expérience, qu'est-ce que ça va ouvrir pour nous, faisons-le. Et on avait envie d'abord que ce soit une pièce féministe pour les jeunes garçons et les jeunes filles d'aujourd'hui. Ça nous semblait très important de que pour une fois, pour une rare fois en tout cas, ce soit une jeune fille qui incarne la place de l'héroïne. Et dans ces discussions, j'ai repensé à ce roman de Beauchaud, d'Henri Beauchaud, que j'avais absolument oublié, alors que 20 ans auparavant, je l'ai lu, relu une dizaine de fois, je l'ai offert à tout le monde autour de moi, je l'ai offert à toutes les femmes, et je m'étais même dit, un jour peut-être, j'aurai une fille, elle s'appellera Diotime. Mais en tout cas, ce roman est ressorti, et donc on est allé l'acheter sur le champ, et en une après-midi, j'ai lu l'entièreté du texte à Magda.
C'était un moment particulièrement important et émouvant pour nous à différents égards, mais aussi ce moment-là a comme incarné, cristallisé cette grande question de la transmission, donc qui est vraiment le corps, le cœur de Diotime, qui est l'une des questions principales qu'on se pose, donc moi qui accompagne le travail de Mylène Benoît maintenant depuis des années. Diotime et les lions est la première pièce que nous coécrivons ensemble. Et il se trouve que pour la petite anecdote, Mylène est de 10 ans mon aînée, et qu'au moment de cette lecture, il s'agissait aussi en fait d'un vrai moment de transmission amicale, humaine, artistique, et qui est la question qui sous-tend en fait le travail de la compagnie depuis des années, c'est-à-dire comment on transmet, comment on s'adresse, comment on converse, comme le redisait Mylène ce matin quand on discutait de cette émission à venir, et qui est la question que nous nous sommes posées quand il s'est posé de créer une pièce avant tout adressée à des enfants. Et Diotime, elle est à la fois une jeune fille qui a 14 ans dans l'œuvre de Beauchaud, mais c'est aussi une vieillarde, c'est aussi un lion, c'est aussi une âme qui traverse tous les corps, tous les temps et tous les âges.
Justement, puisque c'est un texte protéiforme et que les thèmes y sont multiples, est-ce qu'on peut dire, si on essayait de raconter l'histoire que raconte Beauchaud ? Parce qu'en plus, c'est Beauchaud qui raconte l'histoire de Diotime, mais Diotime est une histoire et un personnage qui existe depuis longtemps, puisque Œdipe la croise sur son chemin. Que raconte Beauchaud à propos de Diotime ?
Ben Beauchaud raconte donc l'histoire de cette jeune fille qui descend d'une lignée perse. Et donc tout ça se passe dans des temps très lointains, à peu près au moment de la Grèce archaïque. Donc c'est vraiment, il y a très très longtemps. Et elle vit dans un village, donc avec son grand-père, son père, sa mère, sa sœur. Et bien évidemment, dans les traditions de cette famille et de cette lignée, les jeunes femmes sont plutôt destinées à apprendre à jardiner, à apprendre à tisser, à apprendre à s'occuper de la maison, à jouer de la musique. Par ailleurs, ce sont des familles très talentueuses. Et Diotime, depuis qu'elle est toute petite, a décidé qu'elle voulait aller chasser les lions, puisque dans ce village et dans cette famille, tous les ans, a lieu une grande fête rituelle qui dure 2 jours et une nuit. Et durant cette fête, uniquement durant cette fête rituelle, les humains et les lions s'opposent dans un combat qui souvent donne lieu à peu près autant de morts chez les lions que chez les humains.
Parce que ce qu'il est important de préciser, c'est que Diotime est issu d'une lignée dont les plus lointains ancêtres étaient des lions. Donc en fait, cette relation et cette rencontre de l'homme à l'animal, l'homme vient rencontrer son ancêtre fondateur. Et ça, c'est vraiment un élément très important dans l'histoire, en tout cas dans la partie de l'histoire de Beauchaud que nous avons décidé de proposer.
Et l'autre chose très importante dans ce récit, et très fondateur, y compris de la pièce que nous avons écrite ensemble, c'est que c'est son grand-père, qui s'appelle Cambyse, qui est un homme assez, assez vieux et qui est un très grand chasseur, et un très grand cavalier aussi, qui va accompagner Diotime, donc une jeune fille, dans le dépassement de ses règles sociales. Donc c'est vraiment Cambyse qui lui offre une jument, et puis qui va lui apprendre à l'entraîner, lui apprendre à chasser. Et donc c'est à travers la transmission de la lignée des lions par son grand-père Cambyse que Diotime se remet en relation finalement avec son sang. C'est ce que lui dit d'ailleurs son grand-père. Et c'est ce sang qui va l'amener à confronter et à tuer finalement son premier lion, mais ça on ne le sait pas dans le spectacle.
Quand vous disiez il fallait pour ce spectacle qu'on destinait, selon l'appellation choisie au jeune public, que ce soit un conte féministe, pour vous Diotime c'est le nom de quoi? C'est le nom de qui aujourd'hui? C'est le nom de quoi dans la vaste entreprise de transmission dont vous parliez tout à l'heure, Magda Cachouche?
Je réponds vraiment pour moi. Diotime, c'est le nom... C'est le nom de l'universel, c'est le nom de la grande lignée des êtres humains, c'est le nom de l'espèce. Ce qui est absolument fascinant et magnifique dans le travail d'Henri Beauchaud, c'est qu'il travaille à ne pas opposer les figures, il travaille à ne pas opposer les êtres humains contre les animaux, les hommes contre les femmes, les enfants contre les vieillards. Là-dessus, je me permets de citer Hegel qui ouvre le premier journal d'Henri Beauchaud qui s'appelle Conversation avec le torrent. Et donc Hegel dit « Je ne suis pas l'un des combattants, je suis les deux combattants et le combat lui-même. » Et Céline, Cartillier, Mylène, Benoît et moi, nous sommes retrouvés en novembre lors d'une semaine de travail de résidence autour de Diotime. Et nous avons passé la semaine, en fait, à être plongés, fascinés dans cette pensée. Voilà, pour moi, Diotime, Henri Beauchaud, c'est le nom de l'espèce humaine.
Ça veut dire que Diotime, pour vous, elle ne combat contre rien?
Je pense qu'elle combat absolument, elle combat les lions, bien sûr. Mais en fait, elle combat ainsi ses adversaires les plus grands, les plus beaux, les plus vastes. Et puis ce combat, c'est aussi sa propre avancée, un parcours initiatique absolument fondateur, qui est celui, à mon avis, qui fonde tous les grands passages de l'existence, mais que malheureusement, enfin aujourd'hui en 2019, on fréquente moins, on a du mal, enfin il y a peu de rituels que notre société conserve. Et chez les jeunes garçons, comme chez les jeunes filles, c'est compliqué de devenir, en fait, de devenir adulte et de trouver, et comme le dit Beauchaud, d'inventer, enfin, pour Diotime, c'est Diotime qui le dit, elle dit que ce combat avec les lions, son premier combat, c'est l'invention de la vie.
Et de la propre tradition, et d'une nouvelle tradition.
Exactement. Elle parle de la joie, de la vitesse, de l'air brûlant. Tous les sens sont engagés dans ce combat. Et c'est avec ce combat-là qu'elle va devenir elle-même, au risque de son existence, puisqu'elle manque, dans le roman en tout cas, de mourir, en fait. Et c'est parce qu'elle va confronter comme ça sa liberté, finalement, qu'elle peut devenir. Et là-dessus, Henri Beauchaud est absolument intraitable. C'est-à-dire, alors, on a lu beaucoup ses ouvrages et puis on a même le projet avec Magda de faire une trilogie aussi à partir d'Oedipe sur la route et d'Antigone, qui sont donc les deux ouvrages qui ont suivi Diotime. Et on veut faire cette trilogie encore une fois en direction de la jeunesse parce qu'il nous semble que Beauchaud arrive à repérer et rappeler les grands moments de passage dans l'existence humaine qui font que l'on devient la personne que l'on est. Et Beauchaud rappelle qu'en fait, si on n'invente pas sa vie soi-même, personne ne le fera pour nous. Rien n'est constitué dans notre société aujourd'hui pour nous aider à devenir nous-mêmes. Donc il y a vraiment il y a des luttes qu'il faut mener. Et c'est un peu ce que Diotime nous rappelle.
Et peut-être aussi, elle lutte contre le fait de devenir ce qu'on attend d'elle. Et c'est la grande question qui est traitée à travers la relation avec sa mère, puisque Diotime, après son combat avec le lion, c'est par ce passage-là que notre pièce, à Mylène et moi, se clôture. Diotime va retrouver sa mère dans son jardin. Et enfin, elle se réconcilie aussi avec la part d'elle-même qui craignait finalement de ne plus pouvoir toucher à sa propre féminité, au fait d'être une femme, et donc de pouvoir
être toujours aimée et acceptée par sa mère, puisqu'elle avait développé sa partie sauvage. Et c'est encore une fois...
Et contre la vie de la mère.
Et contre la vie de la mère, et contre la vie de la sœur, et contre la vie, finalement, de cette grande tradition qui existait depuis la nuit des temps dans son village. Donc là, c'est vraiment comment elle se sort, elle s'affranchit de cette question de la tradition pour devenir elle-même en étant à la fois femme et sauvage.
Je reviens à, parce que c'est une question, je pense, importante, à la manière dont vous avez voulu actualiser cette question féministe au regard des jeunes ou moins jeunes spectateurs, en considérant que, encore une fois, ce n'était pas des combattants contre d'autres combattants, mais un combat. Et que les obstacles que rencontre Diotime à l'expression de sa liberté et de son désir se trouvent autant du côté de l'ordre social, de la lignée, que de l'amour maternel, que de la sororité. En gros, finalement, c'est sur tous les fronts qu'elle doit mener ce combat, Diotime, et entre guillemets, aussi contre des femmes.
Mais c'est qu'en fait, devenir soi-même, c'est en fait un combat même contre soi-même, parfois. Et justement, dans Oedipe sur la route, Oedipe dit à Antigone que la liberté douce n'existe pas. C'est-à-dire que...
Il n'y a pas de douceur qui va avec ça.
Non, on ne peut pas... il nous semble, avec Beauchau, que dans l'existence, si l'on veut être libre, ça passe par des combats, y compris contre soi-même.
Ou avec, parce que c'est peut-être ça ce que nous dit et nous répète inlassablement Beauchau. C'est qu'il parle de combattre avec, et peut-être pas contre, mais avec... Toutes ces différentes données, y compris avec soi-même, avec les obstacles,
et avec,
l'ennemi.
Et avec, par exemple, la sauvagerie ou la conviction avec laquelle Diotime avance d'être lié au lion. On va écouter Xavier Leroy, qui a chorégraphié danseurs et danseuses du côté des animaux.
Là, dans les lions, il y a la sieste, cette incroyable habileté à pouvoir dormir à n'importe quel moment. On a essayé plusieurs animaux. On a travaillé sur plusieurs mouvements, mais aussi sur plusieurs behavior. Je trouve pas mes mots en français maintenant. Façon oui. d'être. Il y avait cette chose spécifique des lions d'être là. Longtemps sans rien faire ou presque, et quand on a nous-mêmes essayé de créer des situations où on utilisait le vocabulaire des lions, parce que c'est comme ça qu'on a fonctionné, donc on a par exemple appris des mouvements d'ours, et donc pendant un moment on essaie de bouger comme des ours et de voir comment ces choses-là nous mettaient les uns avec les autres. Et quand on a fait les lions, il y avait cette chose-là d'une façon d'être ensemble qui était pas où on arrivait à se défaire d'habitudes qui sont propres à des travaux de danse quand on parle d'improvisation, donc des situations d'improvisation où souvent on est dans des clichés de réagir à ou d'être en support à, ou donc il y a toutes sortes de règles de composition de l'improvisation dont on a peut-être du mal à se défaire quand on a la pratiqué beaucoup. Et là, c'était, si on improvisait avec ce matériel-là, on était dans une distribution des façons d'être les uns avec les autres qui étaient...
Renouvelées.
Ouais.
C'est ma voix parce que c'était dans notre émission qu'on recevait Xavier Leroy en 2012 pour parler de Low Pieces. C'est une pièce simplement pour donner quelques images à celles et ceux qui nous écoutent où les danseurs sont, je crois, tout le temps nus, en tout cas la plupart du temps nus, et comme ça sont en permanence en train de devenir des animaux, être des animaux, d'une manière ou bien très intérieure ou alors extrêmement mimétique, quoi. Et parfois on a l'impression au plateau d'être face à vraiment un troupeau de lions dans la savane. Vous disiez tout à l'heure, Mylène Menoit, on s'est réparti le travail avec Magda Cachouche de sorte que j'ai beaucoup chorégraphié. Comment est-ce que vous décririez le travail justement de l'entrée de l'interprète à reculons et dirais-je en lion?
Avec la danseuse Céline Cartier, qui est pour beaucoup, bien sûr, dans l'écriture de ses danses, On a commencé par regarder des images de lions. Donc, on a regardé des documentaires animaliers pour évidemment comprendre comment le mouvement se faisait, comment le squelette se mettait en mouvement. Donc le lion qui dort, en effet, le lion assis, le lion qui court, la lionne qui court, ce qui est assez différent. On a été très attentive à ça aussi. Et puis on a cherché, ça a été le tout premier travail, on a commencé par chercher le corps du lion chez Céline. Alors là, ce qui était intéressant dans cette idée qu'on allait aussi travailler en direction des enfants, enfin des individus plus jeunes, c'est qu'on s'est aussi posé la question de la figure, pas seulement du mouvement, mais aussi de la figure. Et de ce qui pourrait, dans le corps, ou dans l'image proposée par le corps, être vraiment repérable d'un seul coup d'œil par des enfants, qui peut-être s'abîmeraient moins longtemps dans l'observation d'un mouvement. Et donc, par exemple, en effet, je suis tombée par hasard sur ce masque de lion absolument fabuleux que Céline apporte dans la pièce comme un chapeau, si bien que elle a un peu un corps double face, elle a un corps de jeune femme et elle a un corps de lionne. Et on la voit arriver dans une espèce de quatre pattes, mais de dos, avec et à partir de ses mains d'humaine, elle forme des pattes de lion. Donc par exemple, on met un grand soin dans cette transformation pour qu'on la voit vraiment opérer. Et les enfants, on le remarque, sont extrêmement attentifs à ce type de détails. C'est très, très impressionnant. Et Céline, ensuite, durant toute la pièce, en particulier dans cette première danse où on découvre qu'elle est à la fois diotime et qu'elle est aussi une lionne, mais plus tard, ensuite, elle va partir donc au combat pour dans la fête rituelle, rencontrer les premiers lions. Et dans ce combat aussi, son corps et le siège, à la fois du combat, elle tire à l'arc, elle a une lance, et de temps en temps aussi...
Elle galope.
Elle galope, bien sûr, puisqu'elle part à cheval. Donc elle est dans son corps, il y a à la fois la lionne, le cheval, Diotime.
Le combat.
Le combat, l'énergie, l'invention de la vie. Donc on a essayé de... Enfin, on n'a pas essayé, nous avons décidé d'entrer toutes ces couches dans son corps. Et donc, son corps est en fait très, très vaste, de beaucoup de figures qui ressortent tantôt dans des intensités de mouvement et tantôt dans des... Oui, c'est ça, dans des images très, très, très précises pour que les spectateurs puissent se saisir de ces différentes identités.
On voit depuis tout à l'heure dans notre conversation qu'on tourne autour de cette idée du jeune spectateur, de l'individu enfant, de l'attention que vous portez à ce que justement cette transformation du corps de la danseuse soit très repérable par des peut-être personnes moins habituées à regarder de la danse contemporaine longtemps dans le détail. Peut-être on met les deux pieds dans le plat, à savoir comment vous êtes emparé de cette question-là, comment c'est quoi pour vous un spectacle jeune public, qu'est-ce que vous avez rencontré comme résistance ou au contraire comme accompagnement dans ce travail-là, puisque ça fait aussi partie de ce que c'est que Diotime et les lions, c'est un être en train de se transformer, donc vous vous adressez à ça. Je sais pas,
absolument.
Spectacle pour enfants aujourd'hui en France en 2019.
On peut dire que beaucoup de chorégraphes en ce moment s'emparent de cette question.
Ah bon ?
Avec beaucoup de talents. C'est le cas de Loïc Touzé, je vais en citer qu'un alors que je peux en citer 10. Et qu'un champ s'ouvre à cet endroit. Alors moi je crois qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu un certain snobisme en fait. Peut-être à la fois de la part des artistes, mais aussi... du milieu du spectacle vivant, voire même des journalistes et des critiques.
Ouais,
de
on
danse.
Peut le dire clairement, hein. Nous, c'est peut-être, je sais pas, la deuxième émission qu'on fait sur ou bien de la littérature à destination du jeune public, ou bien du spectacle à destination du jeune public. Idem pour l'émission de critique artistique sur France Culture appelée La Dispute. Enfin, clairement, une chaîne comme France Culture destinée à parler des arts et de la culture ne parle pas de ce qui est produit pour les individus aller de moins de 17 ans.
Voilà, c'est
non,
ça.
Mais bon, ouais, bien sûr, hein, il faut...
Et comme si, là, il y avait quelque chose de moins valable, enfin, de moins intéressant, alors que je crois que ce que cela a ouvert pour nous est immense. Ça nous a permis de continuer à développer, en fait, toute la... toute la pensée qui était déjà à l'œuvre dans d'autres pièces et de s'adresser à un moment de l'existence qui est en fait fondateur de toute la suite.
Oui, et c'est vrai qu'on s'est posé la question avec beaucoup, beaucoup de sincérité dans un premier temps, puisqu'en fait, Dieu, Tim et les Lions, c'est une pièce qui est née suite à une commande qui a été faite par une structure de danse qui a commandé à la compagnie Contour Progressif une pièce adressée au jeune public. Et on s'est posé la question avec sincérité de savoir si on avait envie de s'adresser différemment ou pas. En tout cas, voilà, ce qui est ressorti immédiatement, c'était d'avoir ce grand désir de respecter absolument notre interlocuteur et aussi de s'adresser à lui finalement, en fait exactement de la même manière qu'on s'adresserait à un public plus adulte, mais en tout cas en essayant de l'inviter à être avec nous. Peut-être d'autant plus, ou en tout cas en imaginant, on a fait un peu le pari de se dire, si on invite ces spectateurs à être avec nous encore une fois, avant, pendant, après, peut-être que ce sera plus facile finalement d'être en dialogue, dans un véritable dialogue avec lui, que de l'engager en fait, vraiment pleinement, dans une participation du spectacle. Et en l'occurrence, on a eu la très agréable surprise de se rendre compte que ce pari-là, il était bien pensé ou bien lancé.
Peut-être que ce que ça a ouvert pour nous, c'est le fait comme ça de penser de manière encore plus profonde la participation, qu'elle soit active, puisque les spectateurs participent à la pièce dans Dieu Tim, donc qu'elle soit vraiment manifeste ou que ce soit une participation par la pensée, par l'émotion. Et donc là, on a osé des choses que bien sûr, peut-être on ne ferait pas pour dans le cadre d'un spectacle dit pour adultes. Mais en tout cas, dans Dieu Tim et les Lions, les spectateurs, avant le spectacle, sont équipés on leur donne des accessoires. Et ils vont ensuite, pendant le spectacle, nourrir la bande sonore du spectacle. Donc, on les engage dans une présence qui est un moment musical. Et puis plus tard, ils ont un accessoire silencieux. Donc, et ça, c'est un moment très, très savoureux pour nous. On les engage dans une composition plastique aussi. Et sans leur participation, la pièce n'est pas complète. Et cette participation de tous les publics, encore une fois, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais il est évident que pour des enfants, la participation au spectacle rend absolument manifeste la dimension rituelle du spectacle vivant en soi. Et c'est une chose à laquelle on croit depuis très longtemps, qu'un spectacle vivant, qui engage des corps vivants sur un plateau, c'est un espace de rituel. Ça dépend comment on s'en empare, mais pour nous, c'est une chose très importante. Et là, on a vraiment constitué la pièce comme un rituel.
Et c'est l'un des mots qui ressort peut-être du travail de bien des années en arrière, en fait, pour la compagnie Contour Progressif. Je pense évidemment, je sais pas, à l'aveuglement, mais à Notre Danse. En fait, de très nombreuses pièces qui touchent à cette dimension rituelle et aussi à la thématique de l'origine ou des origines, ou quelque chose de plus grand que ça encore. On va écouter Pascal Quignard à ce propos.
Il y a quelque chose dans la danse, c'est ça qui peut-être me fascine le plus, et dans la danse moderne particulièrement, où le langage s'efface, tente à s'effacer. C'est peut-être l'art qui... l'autre étant la musique, mais dans la musique il y a quand même une espèce de langage souverain, et qui est la musique elle-même, qui est le mélos, qui est le chant lui-même. Mais dans la danse, dans cette tombée du corps sur la scène, sur la terre, qui cherche à se lever ou à renaître, comme cela, comme tous les corps dans les vraies danses, ce sont toujours des renaissances, c'est certainement l'art le plus silencieux.
France Culture, par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Mylène Benoît
et Magda Cachouche.
Tout à coup, j'ai su Une danse très lente s'est emparée de moi et elle était comme un chant. Nous avons dansé ainsi, hors du temps, jusqu'au moment où il y a eu un feu superbe dont les flammes s'élevaient très haut. Au centre, évoluait mon grand-père, Cambyse, qui dansait avec force, une lenteur, une majesté souveraine. Je croisais parfois mon père. Il avait le mufle, les dents et la cruauté des fauves, et pourtant il était mon père et n'arrêtait pas de sourire. La danse nous ramenait peu à peu à l'origine du monde, à la réconciliation de l'âme avec son corps sauvage. Jamais le monde n'avait été aussi beau, aussi cruel. Quelques mots d'Henri Bouchaud, Dieuty Mélignon, et juste avant quelques mots de Pascal Quignard dans une archive de 2013 pour parler de cette fameuse origine de la danse ou danse qui ramène à l'origine des choses ou origine du monde. Puisque d'une part c'est présent dans la lecture que vous faites de Bouchaud, alors je ne sais pas à quel point c'est présent dans Bouchaud, mais dans votre lecture c'est présent. Et d'autre part parce que d'une manière générale, cette question de la relation entre la danse et l'origine est présente dans le travail de la compagnie. Peut-être dire comment elle se renouvelle dans cette pièce, Mylène Benoît.
En tout cas, ce que je peux dire, c'est une chose fondamentale pour moi dans la danse, c'est que je crois qu'il y a dans la danse une dimension phylogénétique, au sens où quelque part, donc la phylogenèse, c'est bien ce qui relie les espèces entre elles, et des hypothèses sont faites du fait que dans l'ontogenèse, c'est-à-dire dans notre propre, dans le développement de l'humain, on passerait comme ça au moment du développement du fœtus par des stades qui seraient presque des stades le signe de l'évolution des espèces. On passerait à un moment quand le fœtus se développe, il a une queue, puis elle disparaît. À un moment, on ressemble à un batracien. Enfin, il y a toute cette espèce de mystère comme ça dans l'ontogenèse qui nous relie aux espèces animales. Et ça, c'est une chose absolument fondamentale dans Diotime, et c'est une chose très ancienne pour moi dans le travail chorégraphique. Parce que j'ai la sensation que quand un corps se met à chercher de la danse, quand un corps se met en mouvement, il y aurait comme une espèce de savoir des cellules qui viendrait comme ça nous informer de choses que peut-être notre conscience aurait oubliées, mais dont notre corps se rappellerait. Et donc j'ai toujours pensé que dans le moindre mouvement de danse, il y a comme un mystère comme ça, qui est le mystère un peu des origines en effet, qui se déploierait en même temps que le mouvement du danseur. Donc ça c'est de toute façon une chose qui sous-tend le travail chorégraphique pour moi depuis très longtemps. Dans Diotime, on le met en jeu ensemble encore à l'endroit de la relation entre les lions et les humains.
Oui, parce que je précisais dans votre lecture d'Henri Bouchaud, Magda Cachou, je pense que c'est important, ce que j'ai lu là, c'est un réagencement du texte de Bouchaud.
Oui, ça répond aussi d'une certaine manière à la question que vous avez posée juste avant l'extrait où on entend Pascal Quignard. Parmi les choix que nous avons faits, il y a eu la question de la langue d'Henri Bouchaud. En l'occurrence, nous avons pris la décision de respecter absolument la langue, le langage, les mots d'Henri Bouchaud. Donc, rien n'est travesti. Cependant, sur certains extraits que nous avons choisis, donc là, en l'occurrence, que vous avez lu, il s'agit du moment où Diotime, les combattants, son grand-père, rentrent en transe, font une grande fête après le combat avec les lions. Cette transe, elle dure longtemps. Et elle les fait rejoindre l'antre des ancêtres. Ils rejoignent les dieux lions et vont danser comme ça hors du temps, comme c'est dit pendant très 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 longtemps. En l'occurrence, beaucoup d'éléments nous sont donnés dans le texte originel de Bouchaud. Et nous avons choisi là simplement de ne pas donner tous les éléments parce que la langue de Bouchaud, elle est à la fois simple, en même temps extrêmement dense. C'est-à-dire que une phrase de Bouchaud, c'est un continent à parcourir. Donc, ce moment-là, en l'occurrence, on a choisi de poser un paysage que nous construisons donc avec les spectateurs. Il y a un grand feu superbe. Il y a la vision de Diotime, qui à la fois perd la vue et pourtant voit. Il y a les figures et les personnages qu'elle croise, donc la figure de l'ancêtre, son grand-père, qui danse avec une lenteur et une force, une majesté souveraine, dans ce que Céline Cartillier va interpréter par la suite. Et elle croise également la figure de son père, qui pourtant a le mufle, les dents et la cruauté des fauves, mais est son père et ne cesse de lui sourire. Donc c'est un moment pour nous qui vient en fait regrouper tous les éléments de la grande cuisine de Beauchaud, comme le disait Mylène tout à l'heure, qui est une écriture absolument synesthésique, où les corps, les matières, sont, les langages sont traités avec la même délicatesse et le même soin.
En fait, on s'est posé la question de simplifier le texte. Et puis, là encore, on a été aidé par une professionnelle du spectacle pour enfants qui s'appelle Graziella Végis et qui est venue voir des répétitions. Et on lui a posé des questions. On lui a dit, voilà, est-ce que tu penses que le texte est trop complexe? Elle nous a dit, mais non, il faut absolument y aller parce que les enfants se saisissent de tout. Ça veut dire que les enfants vont se saisir des mots, se saisir de la lumière, se saisir des pattes de lion de Céline Cartillier, se saisir de la vibration, se saisir d'un instrument, et ils vont composer un savoir avec tout ça. Et bien évidemment, cette espèce de rapport synesthésique au savoir, c'est celui dont nous venons tous et que nous, malheureusement, nous oublions, ou l'école nous apprend à oublier que c'est comme ça que nous apprenons, mais c'est quand même bien comme ça que les plus jeunes individus apprennent. Et on le voit chaque fois qu'on joue Diotime, les enfants sont presque beaucoup plus aptes à percevoir toutes les couches de matériaux de la pièce et à s'en saisir et en faire un palimpseste qui va constituer leur propre expérience et leur propre savoir que certains adultes parfois accompagnants qui vont chercher du sens, par exemple, uniquement dans le texte, et qui s'inquiètent beaucoup de savoir si les enfants peuvent entendre le texte que vous venez de lire. La réalité, c'est absolument l'inverse, c'est que les enfants se saisissent de tout. Et à chaque fois qu'on joue, on termine les représentations par un petit moment de rencontre. Et on a des rencontres fabuleuses avec des enfants qui nous disent « Mais finalement, Diotime, dans le spectacle, elle a 5 corps. » « Ah oui, elle a 5 corps. Alors qu'est-ce que tu vois comme corps ?» Et voilà, où ils nous disent « Bon, il y avait beaucoup, beaucoup d'animaux. Et qu'est-ce que tu as vu comme animaux ?» Un zèbre. Alors bien sûr, il n'y a pas de zèbre dans le spectacle, mais il y a des zèbres, il y a des chouettes, il y a des cerfs.
Il n'y en a pas plus que de lions, en fait.
Voilà, c'est
ça,
exactement. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et peut-être que c'est une des grandes joies dans la rencontre avec ce public-là, de voir que l'espace imaginaire est encore totalement ouvert et respirant, quoi. C'est vraiment un espace absolument vivant.
Ultra vivant, ouais. On y reviendra peut-être, mais juste pour rester encore un instant sur le texte, dans l'archive, Pascal Quignard disait de la danse et de la musique, que c'était des arts éminemment silencieux. Vous décidez avec cette création et en fait avec d'autres créations, souvent de faire chanter les interprètes, ici de les faire parler, d'ajouter une narratrice. Alors peut-être que cette parole-là reste du silence, mais en tout cas ce n'est pas une danse qui s'inscrit dans l'idée que le mouvement égale le silence.
Ah non, certainement pas, mais c'est plutôt que nous pensons que le corps égale la voix, égale la lumière, égale la vibration sonore, le corps égale l'espace, et que donc le corps du spectacle, dans Diotime, comprend même le corps des spectateurs. Donc il n'y a pas de... comme Magdal disait plus tôt, il n'y a pas de jeu d'opposition. Il n'y a pas de façon de regarder un mouvement qui devrait être donné dans le silence. Non, l'idée, c'est de travailler sur les résonances entre tous les matériaux à l'intérieur de la pièce.
Et peut-être parler un instant des images qui sont projetées par vidéoprojection et manipulées directement, parce qu'on en a peu parlé, mais elles participent aussi de l'espace mental, l'espace de narration, l'espace de rêverie, l'espace imaginaire.
Oui, ça c'est une grande question aussi qu'on s'est posée. Donc dans le dispositif qui est proposé aux spectateurs, parmi les choses qui composent cet atelier ouvert, des images sont donc vidéo-projetées sur une sculpture qui pour nous est une montagne composée de cubes de polystyrène qui accueille donc des images qui sont disposées par la narratrice sur un banc-titre récupéré par une vidéo, etc. Donc les spectateurs voient comment la narratrice choisit ses images, les dispose sur le banc-titre et ensuite comment elles apparaissent sur le paysage de Duotim sur le plateau. Et dans ces images, il y a à la fois il y a beaucoup de figures, il y a des photographies d'animaux, de chevaux, de paysages, il y a aussi des dessins que nous avons faits. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est à quel moment on vient encadrer l'imaginaire du spectateur. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est le grand dialogue qui continue de se faire entre l'abstraction et la figure. Et l'abstraction notamment qui est habitée par la danse, enfin en tout cas qui est incarnée par la danse. Et comment en fait le fait de poser des images sur des mots, de poser des images sur le chant qui nous est donné par Céline, au lieu de, enfin peut-être, en tout cas dans la peur qu'on avait peut-être d'enfermer le regard et l'imaginaire du spectateur, continue en fait de le déployer.
Donc tout procède par addition. De la Exactement. Même façon que des enfants disent la danseuse a 5 corps, en fait elle en a 5, elle en a peut-être 10, c'est à la fois une montagne de cubes de polystyrène et une montagne, un cercle de feu et un cercle rituel.
Des barres de bandes LED qui sont des éclairs et de la pluie. La voix de Céline et la voix de la narratrice qui est à la fois la voix de Duotim, de Beauchot et peut-être de Cambyse. En fait, effectivement, les éléments comme dans La langue et la pensée de Henri Beauchot se composent dans une grande cuisine qui est complexe, s'additionnent mais en tout cas ne s'opposent pas.
Peut-être que ce qu'on a oublié de dire et qui est fondamental, c'est qu'Henri Beauchot était psychanalyste. Alors, tous les psychanalystes ne sont pas comme Henri Beauchot, je pense, mais en tout cas, on sent qu'il a une pensée de l'inconscient, évidemment, humain, et du coup, des rites de passage nécessaires, mais il a aussi une pensée du corps qui est complètement folle, je trouve, pour un écrivain. Je lis beaucoup, et je trouve que chez Beauchot, la place du corps, dans tous ses états, la place de la relation entre le corps et l'esprit est complètement sidérante. Il y a vraiment des pages du texte qui sont des danses, en fait. Tout ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris Duotim et les lions, et puis on a suivi Beauchot, cet homme, cet écrivain et ce psychanalyste, et on a pris les perches qu'il nous tendait et on s'en est saisi. Mais je crois que la dimension synesthésique de Duotim, de la pièce, qui par ailleurs est en écho avec la dimension synesthésique du travail de la compagnie, trouve absolument une résonance dans l'écriture de toute façon d'Henri Beauchot au départ.
Marguerite Duras, vous avez parlé avec des enfants, mais c'est pas facile de parler avec des enfants. Comment vous y êtes-vous pris?
J'ai d'abord interrogé les gosses à l'école. Dans l'école, ça n'a rien donné.
Pourquoi, c'était une mauvaise école ou c'était...
Non, une très bonne école, c'est une école modèle. Mais les gosses étaient encore sous l'hypothèque, si on peut dire, de la scolarité.
Ils avaient peur d'être mal notés.
Ils avaient peur de dire des bêtises, de se tromper. Ils le disaient, oh je me suis trompée, oh j'ai dit une bêtise.
Ils étaient toujours en classe.
Oui, voilà. Alors je les ai pris chez moi, une fois, deux fois, trois fois. Il faut beaucoup de patience. Et j'ai vu arriver le moment, enfin c'était très net, de rassurement total, ils m'avaient oublié complètement. Je lançais une question, la question arrivait sur eux, et ils ne savaient pas d'où elle venait, ils en discutaient entre eux. Il faut s'effacer.
Mais comment avez-vous eu l'idée, avant d'aller dans cette école et avant de faire venir les enfants chez vous, comment avez-vous eu l'idée de parler avec des enfants? Pourquoi?
J'aime les enfants, beaucoup. Les fous, les enfants. Je crois que l'enfance est un âge à part qui n'est pas l'âge qui précède l'âge adulte. C'est un âge à part, une sorte de préhistoire, fermée, sans communication avec l'autre âge.
Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, que le monde est joli. Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, je reste au bord du nid. Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, je veux voir du pays. Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, je vole près d'ici. Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, je vois un cœur de nid. Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, notre abbé est trop petit. Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, que le monde est joli. Ils vont te prendre, petit oiseau sauvage. Père, mon père, oh mon père, ils m'ont pris.
Incroyable petite comptine qui vient d'enregistrement des entretiens que Marguerite Duras donc avait fait avec quelques enfants et qui est reprise aussi dans l'émission L'Expérience diffusée sur France Culture, qui a décidé d'aller retrouver les enfants avec lesquels s'est entretenue Marguerite Duras à l'époque. Dans cette archive d'il y a 52 ans, Duras dit qu'il faut en passer par non seulement la sortie de l'école mais une forme de rassurement et d'effacement. Je voulais savoir comment vous entendiez cette archive, Mylène Benoît et Magda Cachouche, à la lumière non seulement du travail que vous avez fait pour Diotime et les Lions, mais puisque vous disiez tout à l'heure que ça avait ouvert, pourquoi pas, un nouveau territoire de travail, de pensée et de chorégraphie, donc à la lumière de ce que vous allez peut-être faire par la suite.
Je dois dire que je trouve ça un petit peu désespérant de se dire que en 2019, on a toujours la sensation que les enfants ont besoin de rassurement et ont besoin de sortir de l'école pour pouvoir parler librement. Alors, je peux pas parler de toutes les écoles et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour l'école publique, mais quand même, ce que nous vivons avec Diotime, c'est en effet, à l'issue des spectacles, une parole des enfants totalement libérés, avec assez souvent, il arrive quand même assez souvent, il faut le dire, des enseignants ou des accompagnateurs qui vont dire à l'enfant, mais non, il n'y avait pas de zèbre. Alors nous, notre travail, c'est de dire qu'il y avait un zèbre dans la pièce, mais c'est troublant quand même de se dire qu'en 50 ans, les choses ont si peu changé. Parce que notre rencontre à chaque fois avec les enfants est d'une vivacité et d'une intelligence extraordinaire, pourvu qu'aucun adulte ne vienne l'entrecouper.
Ou bien on entend aussi souvent, par bienveillance, les accompagnateurs venir nous voir à la fin du spectacle en nous disant « Désolé, les enfants n'ont pas cessé de parler ». On fait du spectacle vivant, que les enfants s'agitent, que les enfants décrochent et besoin d'échanger. Enfin, nous semble en tout cas tout à fait normal. Et pour nous, qui sommes à la fois à l'extérieur du plateau et sur le plateau, les représentations n'ont jamais été aussi belles que quand, en fait, l'assemblée, comme on dit souvent, quand l'assistance, les spectateurs, nous aident, en fait, en étant absolument vivants, alertes.
Mais ça, pardon de vous couper, est-ce que c'est tellement une question qui est liée à l'enfance et l'école et pas une question qui est liée au spectacle vivant ? Est-ce que c'est pas lié à la manière dont aujourd'hui le spectacle est pensé et proposé, que ce soit à des enfants ou à des personnes plus âgées ?
Moi, je crois pas, je crois que je dirais les deux. On a aussi, au sein de la compagnie Contour Progressif, on développe un très grand travail de rencontre avec des danseurs qui ne sont pas danseurs, des danseurs qui sont élèves et notamment beaucoup, beaucoup dans des collèges. Donc à cet âge fameux de l'adolescence où on est encore un pied dans l'enfance et bientôt chez l'adulte et donc dans cette grande piraterie encore pas conditionnée. Et non, je crois que c'est l'espace de l'institution, c'est l'espace, en fait, le symbole de ces grandes maisons, que ce soit l'espace d'un théâtre ou l'espace de l'école. Qui sont encore des lieux où on n'a pas trouvé de façon de s'adresser à nos interlocuteurs en se disant qu'on est dans un échange, dans un contrat réciproque et non pas...
Mais ma question était de savoir si, d'après vous, ça contraint davantage les enfants ou est-ce que ça contraint toute figure de spectateur ? C'était ça, moi, que je posais comme question.
Je pense, en effet, que si on n'a pas les usages... du spectacle vivant, ou quand on vient un spectacle pour la première fois, qu'on soit jeune ou vieux, on peut se dire qu'il y a peut-être là, enfin il y a forcément malheureusement tout un tas de codes qu'il faudrait savoir suivre. Et puis la question se pose beaucoup quand il s'agit de danse contemporaine, est-ce qu'il faut avoir compris un spectacle ? Donc c'est une grande inquiétude de n'importe quel spectateur.
Tout âge confondu.
Voilà, qui se pose la question de sa propre légitimité. Moi, je crois que cette chose-là trouve ses racines en France, dans un certain rapport au savoir, un rapport très vertical, et qui, quand même, trouve sa source à l'école. Je pense que si l'école était plus libre et le savoir dispensé de manière moins verticale, alors nos spectateurs, jeunes et vieux, seraient eux aussi plus libres.
Dernière petite question, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup et que ce que vous venez de développer touche aussi à ce qu'on appelle la programmation des salles de spectacle, c'est-à-dire en fonction des inquiétudes de ce que c'est que de comprendre ou pas un spectacle, qu'est-ce qu'on peut adresser ou pas à des enfants, on programme plus ou moins longtemps ou on programme plus ou moins souvent. On fait ce métier-là de programmation pour les émissions de radio et on se demande pourquoi c'est si peu programmé. Pourquoi la danse contemporaine est si peu programmée? Pourquoi si peu de compagnies? Pourquoi si peu longtemps? Et peut-être de surcroît des propositions de jeunes publics. On voulait avoir votre avis parce qu'on a décidé qu'on posait la question régulièrement.
Parce que la liberté fait peur, parce qu'en fait, la danse, c'est sans doute l'une des entrées artistiques, encore une fois, qui travaille le plus l'abstraction. Et donc le fait de pouvoir avoir une proposition plastique et des corps vivants devant soi qui ne nous imposent pas quoi penser et comprendre, mais qui nous proposent des entrées, et que cette liberté-là, elle est peut-être encore trop effrayante.
Pourvu que ça bouge. Merci beaucoup Mylène Benoît, Magda Cachouche, Diotime et Les Lions. Ce sera joué donc les 14 et 15 mai à Vivat Armentières, les 23 et 24 mai au Grand Bleu à Lille, le 28 mai à la scène nationale de Maubeuge dans le cadre du festival Qui danse. Je rappelle le nom des interprètes, Céline Cartillier pour la danseuse et Nicolas Devos et Pénémol Michel pour la musique. Et notons aussi que Notre Danse in situ, une autre pièce de la compagnie, sera jouée le 18 mai prochain dans le cadre de la Nuit des Musées au Musée de la chasse en partenariat avec la Villa Kujiyama. Merci beaucoup. À la prise de son ce soir, c'était Jean-Michel Bernot, à la réalisation Véronique Samouilov. Un grand merci à Jeanne Léos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor, Valentin Rémy qui m'aide à penser cette émission tous les soirs. Dans un instant sur France Culture, ce sera le journal de 22h et quand vous voulez sur franceculture.fr, la référence des archives, des musiques et la possibilité de s'abonner au podcast. On vous dit à demain. So gentle, so soft.